Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 29e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu. Et quand je dis notre, ça veut dire moi et Caféine. Bonjour Caféine.
Bonjour Fasquille.
Ça va?
Bah écoute, pas mal.
Allez,
on survit, on est parti.
On est parti, tout de suite, là on se lance.
On est chaud.
Et on va commencer par un truc plutôt pépère en fait. Donc toi, je sais que tu vas beaucoup rire. On va parler d'Euro Truck Simulator numéro 2.
Ouais, non mais je tiens à dire que je ne sais pas pourquoi c'est là. C'est le mec, c'est l'autre. C'est l'autre dans le micro.
C'est l'autre Fasquille.
C'est pas moi. C'est rien à voir. Vas-y.
Je vous en avais déjà parlé sur Geekzone dans une rubrique où j'avais mis un petit peu mes jeux de la zénitude. Quand c'est un peu une période stressante et que j'ai envie de me détendre, bah, je me mets un peu de musique et je vais arpenter les routes d'Europe pour livrer des palettes de whatever, je sais pas quoi, on s'en fout en fait. Voilà. Et je suis pas le seul, figure-toi qu'il y a quand même pas mal d'adeptes sur Geekzone.
Okay.
C'est un jeu qui est pas mal suivi, il est sorti en 2012.
Non mais ils en vendent des palettes. Hein.
Clairement, c'est le quatrième gros DLC qui sort après Going East, Scandinavia et Vive la France. Et c'est un DLC entièrement consacré à l'Italie, donc on va avoir 11 500 km de nouvelles routes, 19 nouvelles villes italiennes à traverser. On s'enfonce de plus en plus dans la botte, il y a Rome, Naples, Palerme, Messina, on pourra aussi faire une pointe jusqu'en Sicile. C'est bien sûr accompagné de nouveaux assets, de nouvelles industries, de nouveaux trucs à transporter, tout ça. Et c'est sorti donc il y a 3 jours, le 5 décembre dernier, sur Steam pour la modique somme de 18 balles pour ceux qui sont fans du jeu. Des nouveaux paysages donc à aller explorer. Je sais que c'est pas ce qui va te donner envie
mais
de t'y
aller
mettre.
Mais aller acheter un morceau de parmesan les mecs à la place quoi. Je veux dire, c'est tu peux même pas t'arrêter manger du jambon, tu vois.
Non, c'est pas encore prévu.
Non, je comprendrai jamais. Hein, mais t'inquiète, c'est pas le seul jeu que je comprends pas. Mais celui-là vraiment, je comprends pas.
C'est ma drogue douce, écoute. Voilà. Bridge Constructor Portal, c'est une annonce qui a surpris un petit peu tout le monde. Bridge Constructor, c'est une série qui a quelques années déjà, qui a été déclinée en plusieurs versions. Il y a eu version Stunts, Playground, Medieval. Donc c'est un jeu d'ingénierie, on va dire, où il faut construire des ponts pour réussir à faire passer des véhicules d'un côté à l'autre d'une falaise.
Pont.
Voilà, du pont, d'une falaise. Et en l'occurrence, ici, ça va être décliné donc à la sauce Portal. C'est une licence officielle, donc on va pouvoir faire ça, mais avec des portails en plus. Donc ça risque d'être assez rigolo. On sait pas grand chose pour le moment. Il y a eu une petite vidéo trailer qui est sortie d'une minute où on entend la voix de GLaDOS, la légendaire voix de GLaDOS, et on a pu découvrir très rapidement à quoi ça allait ressembler. Niveau gameplay, ça va être un bridge constructeur assez traditionnel pour ceux qui connaissent. Ça sort le 20 décembre à peu près sur tous les supports. On sait pas encore à quel prix, mais à probablement autour de 10 balles comme les autres déclinaisons. Et donc, comme je disais, ça sera disponible partout, dont Steam. Bridge Constructor, voilà, un petit jeu de réflexion plutôt sympa, moi j'avais bien aimé, et si c'est en plus à la sauce fun de la licence Portal, ça peut être vraiment cool. Mmh. On va rester dans le gaming, et toi tu voulais parler d'un vrai jeu, tu m'as dit.
Ouais, un vrai jeu vidéo, un truc, tu vois, enfin où il faut
un truc d'homme,
faut avoir des poils et non pas du tout en fait, hein. Vous pouvez jouer avec des petites mains féminines, mais c'est rigolo parce qu'en fait on connaît très peu de choses sur l'avenir de ce jeu. J'avais envie d'en parler depuis un moment, mais comme du coup je n'arrive pas à creuser les bonnes informations, on y va quand même et on verra ce qui se passe plus tard. Le jeu en question, c'est Escape from Tarkov, qui est un jeu en Early Access actuellement, mais alors pas Steam, hein. Quand je dis Early Access, c'est une alpha slash bêta qui est disponible uniquement sur le site qui est linké dans la news qui va avec ce podcast, sur un site de développeurs russes qui travaillent depuis de nombreux mois, pour ne pas dire années, sur ce projet, qui vient se placer de manière même pas opportuniste, parce qu'ils sont sur le truc depuis un bon moment, mais dans l'espèce de mood sur les Battle Royale en ce moment. C'est pas un Battle Royale, attention, mais tu joues un mec qui doit se barrer d'une ville qui n'a pas l'air très accueillante, qui existe pour de vrai, hein, Wikipédia, merci, qui est en Russie et qui a l'air sympa. Alors quand je dis qu'elle existe pour de vrai, si c'est une fausse ville, c'est pas grave. Mais en tout cas, quand t'es dedans dans le jeu, t'as l'impression qu'elle est vraie et tu veux pas y aller en vacances. C'est pour ça qu'il faut se barrer. Bon, il s'est passé des choses, je vous passe tout le scénar apocalyptique, machin, il y a tout sur le site web. Hein. Ce qui est important de savoir, c'est que le moteur du jeu est franchement impressionnant. Ils ont réussi à développer un truc qui est hyper carré, qui y a vraiment une sensation d'y être qu'on n'a pas souvent dans ce type de jeu, et c'est pas le but d'un PUBG et compagnie, mais on est vraiment sur un jeu de survie, et du coup c'est l'ambiance qui est proposée par l'environnement qui va te faire flipper. Genre tu passes à travers les buissons, tu passes dans des sapins, tu entends le sapin et les buissons qui vont vraiment frotter contre tes fringues, par exemple. Et ça a une importance parce que ça veut dire que les autres t'entendent aussi. Et c'est pas une bonne nouvelle. Donc je vous explique le topo. En gros, il va falloir aller looter des trucs pour survivre dans la ville. Votre personnage, il doit bouffer, il doit s'hydrater, mais il doit aussi avoir des balles pour mettre dans son gun, pour aller flinguer des mecs et pour pouvoir rejoindre plus une des sorties qui est dans la ville. Ces sorties sont planquées, il y en a plusieurs dans chaque zone de la ville. Une fois que vous avez looté tous vos trucs, si vous ne sortez pas, vous perdez tout. D'accord. Mais vous perdez aussi les trucs que vous avez emmenés au début de votre game. C'est-à-dire que si toi tu te pars en mission avec ton AK toute neuve que tu viens de looter sur une truc précédente, si tu meurs, on te la pique et toi tu l'as plus.
D'accord.
Sauf si tu as assuré tes armes. Mmh. Un peu comme dans Elite quand tu exploses ton vaisseau.
Je vois où ça va tout ça.
Et du coup, en fait, alors c'est de la monnaie in-game et compagnie, mais bizarrement, quand t'achètes les packs pour accéder à la bêta, évidemment, plus tu mets de thunes, plus t'as de stuff dès le départ.
Ah bah oui.
Et c'est là où j'ai un doute sur le business model à terme du jeu et où je suis un petit peu inquiet, je ne vous le cache pas. J'ai creusé un peu, mais j'ai pas d'informations hyper pertinentes, hyper carrées sur le sujet. Donc si vous êtes déjà fan du jeu ou quoi, n'hésitez pas à me compléter sur le forum. Parce que très honnêtement, je trouve le feeling du jeu hyper intéressant. Alors après, il y a des trucs, le gameplay est quand même un peu violent de chez Russe.
D'accord.
C'est-à-dire que les mecs sont un peu fans du réalisme, mais ils ont été un petit peu trop loin. C'est-à-dire que tu as des scopes, c'est pas le scope de PUBG. Hein. Non, c'est le scope avec, t'as un vrai effet lentille quand tu vas épauler, avec le gun qui prend la moitié de l'écran. Tu vois rien quand tu zoomes, faut vraiment savoir où le mec déjà, parce que c'est pas en zoomant que tu vas le repérer avec un vrai gros scope. C'est vraiment, tu vois sur 2 cm carrés, quoi. Donc, tu peux shooter une mouche, mais si le mec a couru à côté de la zone, tu le trouves plus.
C'est ça.
Tu vas avoir un feeling au niveau de la balistique, etc., qui peut être un peu surprenant, et tu meurs très très vite. Donc, si un mec t'arrive dans le dos, généralement, t'es mort.
Hein.
T'as pas le temps de te retourner, etc. Donc, c'est un jeu qui encourage à se poser derrière des caisses et puis de pas oser en boucher. Évidemment, les loots intéressants, faut des clés spéciales que tu récupères pour ouvrir des portes dans des endroits abandonnés où t'as pas vraiment envie de rentrer, où il fait noir. Et t'entends chaque bruit, chaque truc, t'es là genre, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des mecs? Et là où ça devient drôle, c'est que tu joues évidemment dans chaque zone contre des humains, mais aussi contre une IA. Comme ça, t'es sûr d'avoir toujours du monde dans chaque zone. Et l'IA, elle est loin d'être conne. C'est-à-dire l'IA, elle est capable de faire le tour, de t'attendre à un coin en se disant, tiens, là, je vais pas y aller. Bon, des fois, elle monte les escaliers comme une débile. Ça reste une IA de jeu vidéo, faut pas déconner. Mais des fois, elle fait des trucs assez surprenants qui sont plutôt intéressants. Et tu peux jamais vraiment savoir au départ si c'est une IA ou pas. Et quand tu joues avec un pote, c'est là où c'est drôle, t'as pas de petit nom au-dessus de sa tête, etc. T'as intérêt à te rappeler à quoi il ressemble parce que t'as vite fait de lui mettre une balle. Autant dire
c'est
que
c'est pas un jeu pour moi.
Ouais. Je ne jouerai jamais avec personne de Geekzone avec à ce jeu vu comment ça se passe dans PUBG déjà. Un spécial dédicace à tous les mecs qui m'ont shooté dans des chiottes, hein. Ou quand je rentrais dans une maison, j'ai des noms. Mais le produit est hyper intéressant. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Pour l'instant, on est loin de la version finale. C'est pas terminé, etc. Y a des trucs qui, moi, en termes de gameplay, me hérissent. Il faut mettre les balles dans ton chargeur avant de pouvoir remettre le chargeur dans ton flingue.
Ah oui.
Mais il faut ouvrir l'interface pour faire ça. Donc quand t'es en combat, tu vois, c'est pas super. T'as pas envie, en fait. Et l'autre truc, c'est que t'as pas la bonne veste pour avoir tes chargeurs vides sur toi. Quand tu recharges ton arme et que tu changes de chargeur, tu perds le chargeur que tu avais juste avant. Mais ces chargeurs, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie du matos que tu emmènes avec toi et ça coûte super cher.
D'accord.
Donc t'as pas envie de le poser par terre et de pas pouvoir le récupérer. Donc non, c'est le jeu lui-même est extrêmement complexe. Si vous allez regarder des streams, vous allez voir les menus, etc. Ça, les mecs en train de réfléchir, genre ah mais attends, je peux pas mettre ce scope sur ce gun et tout, c'est compliqué. Donc c'est vraiment 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 un truc qui est pas du tout fait pour être facile d'accès et ça les intéresse pas. Ils veulent des hardcore et qui vont aller passer leur vie dans le truc et qui vont éventuellement y laisser plein de thunes. Donc j'attends vraiment d'avoir toutes les infos sur le business model pour vous dire si c'est bien ou pas. En tout cas, c'est prometteur et je vous confirme que en termes d'ambiance, moi je trouve ça super réussi. Maintenant, c'est le gameplay, c'est sujet à débat.
Escape from Tarkov, donc on verra ça plus tard quand ça sortira définitivement avec un business model qui va bien.
Voilà.
On va parler des apps un peu avec Zenkit en vitesse pour signaler qu'il est sorti sur mobile. Hein. Zenkit, on en avait déjà parlé, c'est gestionnaire de tâches, comment on pourrait qualifier ça, c'est un truc pour s'organiser un peu le taf en fait.
Ouais, c'est un truc qui vient concurrencer Wunderlist, Trello et compagnie, ouais. Tout le monde d'un coup, puisque leur avantage c'est de pouvoir présenter les infos dans toutes les vues possibles.
C'est ça, donc si t'es pas forcément fan de la méthode de travail de ton collègue, tu peux t'adapter en fait et quand même communiquer avec lui.
Exactement.
Et donc là, c'est sorti sur iOS et Android. On en a fait une petite news. Donc, si vous voulez aller télécharger l'app et tester sur votre téléphone, mais vous pouvez le faire. C'est disponible là depuis quelques temps.
Ils ont tout refait, en fait. Hein. La version iOS a été entièrement refaite. C'est la vraie nouveauté. La version Android n'existait pas et elle arrive. Et ils ont un mode offline qui débarque aussi, qui est pareil. Ça ne fonctionnait pas avant. Mais ça commence à devenir très intéressant.
ZenKit sur mobile. Je voulais parler en vitesse aussi pour nos amis Zikos d'une grosse promo, et je pèse mes mots, chez nos amis de Samples from Mars. On en avait déjà parlé aussi sur Geekzone. C'est des gens qui font donc des loops de drums, de synthés, des échantillons de synthés aussi. Enfin, c'est des gens qui, plutôt que de proposer des instruments virtuels, proposent en fait des packs de sons. Donc c'est plutôt du sampling. Donc je sais qu'il y a des gens qui sont moins fans, mais cela dit, ça reste intéressant, surtout quand on n'a pas beaucoup de budget, parce que c'est souvent moins cher que les émulations des vraies machines. Et en l'occurrence, là, ils vendent tout leur catalogue, donc à peu près 1 200 $ de valeur pour 40 balles.
Ah ouais.
Voilà, pour une durée indéterminée, on sait pas combien de temps ça va durer. Voilà, tu payes 40 balles et t'as tout leur stuff. Tout ce qu'ils ont sorti jusqu'ici, en tout cas, ça comprend pas les sorties futures. Mais pour le coup, voilà, si vous avez un peu de mal à trouver des loops de samples, de machins pour vos créations musicales, bah, allez faire un petit tour chez nos amis de Samples from Mars. Ils ont vraiment des trucs cool. Ça va des synthés, drums des années 70-80. Il y a des trucs analogiques, il y a des synthés à synthèse FM, des samplers, des synthés modulaires. Enfin, il y a à peu près tout ce qu'on veut. C'est disponible en plein de formats différents, évidemment en Wave, mais aussi des formats spécifiques pour les plugins batterie, contact, machine, pour Reason. Et donc voilà, bah, c'est plutôt complet, c'est plutôt pas cher, 40 balles au lieu de 1 200. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne offre.
Ça, c'est de la promo.
Voilà, ça, c'est de la promo Samples from Mars. Donc, mais traînez pas parce qu'ils ont pas annoncé de date, mais je doute que ça dure très très longtemps. Il y aura le lien, bien évidemment, dans la news qui accompagne ce podcast. Et on va terminer cette section apps en parlant d'une nouvelle version de Ghostry qui intègre de l'intelligence artificielle.
Ta 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 ta. Ah, le marketing et l'intelligence artificielle, je pense que là on va en bouffer pendant des années, hein.
Sans deck.
Alors c'est un smart mode Ghostry, je rappelle vite fait ce que c'est. C'est un plugin que vous mettez dans votre navigateur pour bloquer tous les trackers de ces messieurs, de ces Google. Bon, il y en a d'autres, hein, mais évidemment Google est souvent cité. Et qui évolue parce que ça a été racheté, donc il y a un nouveau proprio. Ils ont racheté là une nouvelle techno et ils ont mixé tout ça dans un gros shaker. Et en fait, ils ont refait un truc complètement nouveau, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ghostry, c'était un peu chiant à configurer correctement avant, c'est-à-dire que les gens finalement finissaient par bloquer tout ou rien. Et puis quand ils bloquaient rien, ça leur donnait juste les informations de savoir qui les avait pistés, ce qui n'était pas forcément super intéressant, mais qui était en fait utilisé chez les professionnels de tout ce qui est tracking, AdWords et compagnie, pour savoir justement qui faisait quoi sur quel site, ce qui est des informations qui sont plutôt intéressantes. Et du coup, ils se sont dit, tiens, mais en fait, c'est peut-être ça notre business model, et on va arrêter de revendre des informations à des gens tiers, même si elles étaient anonymisées, c'était le business model de la boîte précédente qui ne plaisait pas beaucoup aux gens, ce qui est un peu logique quand tu mets un anti-tracker. Et du coup, cette nouvelle version, elle a un intérêt, c'est que maintenant, tu peux la mettre donc en smart mode avec, en fait, donc on parle d'IA, machin, mais enfin bon, c'est un peu plus simple que ça quand même. Mais en gros, il va permettre ce tracker de bloquer un peu au feeling en fonction de ce que les autres personnes ont fait sur chaque site, bloquer les trucs les plus pénibles, voire anonymiser des informations en continuant d'envoyer le cookie magique à la personne qui essaye de le récupérer, mais en virant tous les trucs importants ou en tout cas en mettant des informations bidons à la place.
D'accord.
Donc c'est plutôt pas mal. C'est un truc qui va du coup faire un peu double emploi avec les nouvelles fonctionnalités qu'on a dans Safari ou Firefox. Les gens disent pas trop de mal parce que déjà la boîte appartient en fait à une boîte qui appartient elle-même à Mozilla. Donc, bon, c'est la famille, hein. Donc, Firefox, quand tu leur demandes leur avis, pour l'instant, ils sont un peu évasifs, mais clairement, Firefox intègre déjà dans la version Quantum quelque chose de ce goût-là. Et Safari fait déjà un excellent boulot, mais en revanche, n'est pas aussi agressif qu'eux sur l'anonymisation des datas, donc ça peut être intéressant d'avoir les deux quand même. Mm-hmm. Et puis, derrière, on a une interface qui est quand même plutôt sympa, avec des infos intéressantes qu'on n'a absolument pas sur les autres, pour le coup. Donc, même si tous les navigateurs, même Chrome va s'y mettre bientôt, mais on ne sait pas, ça va être sélectif, donc on ne sait pas exactement qui vont bloquer, qui vont laisser passer, ça reste un truc hyper intéressant, c'est gratos. Voilà, ça se teste, c'est sorti mercredi, si je ne dis pas de bêtises. bêtises. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment fait mumuse avec. J'attends vos retours. En tout cas, ceux qui sont un peu anti-tracker,
parano.
Moins parano. Non, pas forcément. Bon, un petit peu. Mais bah du coup, faites-vous plaisir parce que je pense que bah, des outils de ce genre-là, il y en a pas des tonnes finalement avec une qualité de ce genre-là.
Non, et puis il faut les suivre parce que souvent ça change du tout au tout d'un mois à l'autre. Ouais, donc c'est compliqué. Donc ouais, allez jeter un coup d'œil à ce nouveau Ghostory pour voir ce que ça vaut. Et on va passer du côté de la culture. Je voulais parler de Black Mirror. Tu connais la série?
Ouais, cette série qui met de bonne humeur et qui voilà. Fait voir le monde en rose. C'est génial.
Exactement.
Bon, bah, je vais aller me tirer une balle après cet épisode.
C'est ça. Série donc créée par Charlie Brooker, ancien journaliste de PC Zone au milieu des années 90, qui a notamment créé toutes les séries Wipe, Newswipe, Gameswipe en télé. Il a aussi fait Dead Set, qui était une excellente mini-série avec une histoire de zombies complètement improbable dans un show de télé-réalité. Donc, les deux premières saisons de Black Mirror, on rappelle le principe, c'est une série d'anthologie de science-fiction, avait été diffusée sur Channel 4 d'abord, et puis la saison 3 sur Netflix. Ça faisait un moment qu'on teasait une saison 4. On a enfin une date de sortie, et ils ont bien fait les choses, comme tu vas le voir, puisque ça sortira le 29 décembre, donc histoire de se mettre un bon coup de déprime entre les fêtes de fin d'année, ça va être parfait. 6 nouveaux épisodes donc sur Netflix. On sait pas grand-chose pour le moment, comme toujours, ce sera donc 6 histoires séparées. Il y aura notamment un épisode réalisé par Jodie Foster, qui tournera a priori autour de la relation entre une mère et une fille. Il y aura un épisode en Islande aussi qui aura un épisode comique. Mais comme je disais, on n'en sait pas plus. Il y a eu un trailer donc qui est sorti cette semaine avec la musique de Louis Armstrong, What a Wonderful World, comme c'est ironique, et qui donne envie. Mais voilà, comme souvent avec Black Mirror, on n'en saura pas plus tant qu'on n'aura pas vu les épisodes. Ça va rester assez mystérieux.
Mais ils se sont pas fait plaisir. Il n'y avait pas même un trailer par épisode.
C'est ça, en fait, ils ont diffusé des petites bribes d'épisodes depuis quelques semaines. Là, je crois qu'il y en a une quinzaine.
Ouais, donc
comme
ils
ça.
Mettent la promo à donf quand même là.
Ah oui, non, ils sont à fond sur le truc. Bah, il faut dire que la série cartonne de manière générale. Et Netflix, pour le moment, fait un peu du hit and miss. Donc tout ce qui peut vraiment cartonner, les valeurs sûres, ouais. Ils poussent quoi. Donc voilà.
Très bien.
Saison 4, donc 6 épisodes. Normalement, je crois qu'ils sortent tous d'un coup le 29 décembre sur Netflix. Black Mirror. Et moi, je serai derrière mon petit écran avec ma petite capsule d'antidépresseur.
C'est ça.
Toujours culture, enfin vaguement c'est business culture. Je voulais en parler en vitesse parce qu'on est revenu sur le sujet dans les clairvoyants. Il y a un rapprochement en ce moment entre Disney et la Fox, donc on murmure qu'il y aurait des tractations pour une fusion entre les deux boîtes, enfin un merger comme ils disent aux États-Unis, mais ça serait plutôt un rachat de Fox par Disney. Donc on a évoqué dans les clairvoyants un peu les impacts que ça pourrait avoir par rapport à Marvel Studios, MCU. On sait qu'il y a une partie des personnages Marvel qui sont chez la Fox. Est-ce que ça voudrait dire que ces personnages reviendraient dans l'escarcelle de Marvel Studio? Pas forcément. Moi, j'ai envie de dire que la conclusion à laquelle on était arrivé dans les clairvoyants, c'était que finalement, c'est pas parce que Disney va racheter la Fox que la Fox va disparaître. 20th Century Fox va continuer d'exister, va continuer de produire ses films. Alors ça, c'est uniquement évidemment du point de vue Marvel Studio et du MCU, hein, mais c'est le truc dont on parle beaucoup en ce moment sur les Reddit spécialisés. Mais effectivement, c'est un peu plus mouse que ça, parce que ça a des implications quand même assez énormes. La Fox, c'est pas rien, c'est 60 milliards d'assets, donc c'est voilà, ça fait mal. Ils ont racheté Marvel 4 milliards et Pixar 4 milliards aussi, hein, pour vous donner une idée. On n'est pas du tout dans les mêmes gammes de prix. Et puis ça voudrait dire, encore une fois, un conglomérat médiatique surpuissant qui commence à chapeauter quand même pas mal de trucs. Hein. Disney, c'est un peu l'empire, unique là.
C'est clair.
Et du coup, on ne sait pas trop. On sait que toute la partie news en fait de la Fox, ils n'auront pas le droit de l'intégrer à Disney. Et encore heureux, hein, parce qu'il y a des règles là-bas qui disent que on peut pas mélanger non plus tous les médias d'information sous la même chapelle.
Donc ils sont obligés de splitter la boîte.
En fait, ils vont racheter une partie des assets de la Fox et la Fox va continuer d'exister en entité à côté avec les canaux de news, etc. Bon, ça va être un bordel pour les actionnaires aussi, pour s'y retrouver, voir s'ils se font pas enfiler au passage.
Magnifique.
Et tout ça sur toujours un fond de rumeur aussi de Apple qui voudrait racheter Disney. Enfin, ça commence à devenir, tu sais, tout le monde se un espèce de gros globi boulga au milieu où
tu
mets
une
mélangé.
Petite musique de Pac-Man, s'il te plaît.
C'est ça, voilà. Voilà, je sais pas quoi en penser en fait. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé, mais
pour l'instant, on n'en sait rien, quoi.
Non, mais ils ont l'air quand même sûrs de leur coup. Sur c'est CNBC qui a lâché l'info, et d'accord. c'est déjà là. C'est pas la première fois qu'ils en parlent, et ils ont a priori des sources assez fiables. Il y avait un autre concurrent sur la sellette, c'était Comcast qui voulait racheter la Fox, mais a priori l'offre de Disney serait plus intéressante. Donc voilà, ça commence à devenir vraiment les gros conglomérats, les grosses corporations. On va arriver dans un monde futuriste qui va bien coller avec Black Mirror finalement.
Moi, j'attends un gros building building en pyramide, hein, sinon ça marche pas le futur.
C'est ça. On va passer du côté de la tech avec Review Meta, c'est quoi ça?
Alors c'est un site web que je connais depuis un petit moment, mais que j'oublie totalement de citer à chaque fois, et j'ai vu un tweet passer tout à l'heure de CPS Hardware qui m'a dit, ouais, au moment où je préparais la conduite, et là je me suis dit, ah c'est vrai, il faudrait peut-être qu'on en parle sur Geekzone, ça serait pas mal. C'est tout bêtement un site qui te permet de vérifier sur les sites d'e-commerce quel pourcentage a priori on a de fake reviews sur un produit.
D'accord.
Donc quand tu regardes un truc 5 étoiles sur Amazon, de vérifier que c'est pas 50 milliards de mecs qui étaient payés pour dire du bien du produit et qu'on reçu le truc gratos. Et en fait, eux, ils ont tout un système qui leur permet de traquer ce genre de truc. Et donc, tu prends ton lien de ton produit, tu le mets dans leur site web et ça va te dire « Attention, là, j'ai pas confiance. » Ou alors « Non, tu peux y aller, là, c'est good, on voit rien, etc. » Donc, on va dire qu'ils font un meilleur boulot que nous en train de scanner les commentaires, en train de dire « Lui, je le crois pas, lui, je le crois pas, lui, il est trop content. » Donc, c'est très, très, voilà, un truc un peu automatisé, mais qui ferait bien son boulot. Donc, voilà, c'était juste pour vous le citer, vous regardez ce que ça vaut et puis vous nous direz dans les commentaires si vous trouvez ça utile ou pas.
On va parler matos aussi.
Avec le Snapdragon 845.
Ça va, c'est encore relativement correct comme...
J'adore le nom de ce truc-là, c'est fantastique. Parce qu'on revient, tu sais, après tous ces processeurs avec des noms pas très sexy chez Intel, avec le iBidule, machin, c'était pas magique. Là, on revient à des trucs, tu vois, Apple, ils nous sortent le A11 Fusion. Tu vois, des trucs un peu, tu mets les boboles sur la table,
rêve, hein.
Tu vois. Ouais. Ouais. Tu sens le processeur qui t'envoie dans le futur un peu. Ou pas d'ailleurs.
Qui accélère l'internet.
Ça voilà, ça me rappelle des bonnes vieilles pubs. Ah là là, donc le Snapdragon 845, c'est le nouveau joujou de nos amis de chez Qualcomm, qui ont envoyé plein de petits journalistes à Hawaï pour voir cette nouvelle petite bestiole.
J'ai vu ça, ouais.
Écoutez, moi je peux pas dire du mal de ces voyages, j'ai moi-même profité de la jeunesse. Le truc, mais bon, par contre, après je rentrais, je disais du mal et j'étais jamais réinvité, c'était bizarre.
Ouais.
C'est pour ça que maintenant, tu vois, vous avez pas des piécettes. Et donc, non, c'est compliqué la vie. Hein. Et blague à part, ce truc sera le processeur central, donc on appelle ça un SoC, un système en chip, puisqu'il y a plein de petits modules qui sont dans le même processeur.
D'accord.
La partie graphique, la partie calcul, la partie IA maintenant, parce qu'on n'en sort plus, hein, c'est fini. Et donc, c'est le truc qu'on retrouve partout sur les gros téléphones Android. On parle des flagships. Donc, tous les téléphones Android un peu costauds vont intégrer ça à partir de mi-2018, j'imagine, parce que la sortie est à peu près prévue, la disponibilité, pardon, est prévue à peu près à ce niveau-là. Je vous passe tous les augmentations de perf dans tous les sens, à quel point il est magnifique, etc., puisque c'est très chiant à dire en podcast et vous ne retiendrez rien. Donc, je vous mets le lien d'un papier chez Next Impact et un autre chez Ars, un peu plus complet, où vous pourrez avoir tous les chiffres qui vont bien. Ce que je voulais mettre en avant, c'était la présence d'un truc qui s'appelle le Hexagone 685 DSP, tu vois, hein, tu vois les noms, tu vois. Je trouve ça génial, qui est donc le processeur d'IA et qui surtout va servir de coprocesseur pour tout ce qui est imagerie, traitement de l'image, pardon. Ça, c'est des nouveautés, c'est des pros qu'on n'avait pas avant, ou en tout cas avec des trucs qui n'étaient pas super puissants. Maintenant, ça devient vraiment le nerf de la guerre. On en a un chez le Pixel 2, chez Google, par exemple. Et le nouveau processeur Adreno 630, qui est en fait le GPU à la base, lui qui s'occupe de la 3D et tous ces trucs-là, bon, il a tellement grossi, lui, que c'est plus un GPU. C'est un visual processing subsystem.
Il a pris en grade.
Ben oui, mais parce que du coup maintenant ces trucs-là servent à faire plein de choses, de la réalité virtuelle, ouais. De l'AR, de la réalité augmentée, donc de la reconnaissance d'image. Bientôt, on va pouvoir montrer, faire du, ce qu'on faisait avec Shazam en disant, hey, c'est quoi cette musique? Et puis tu tendais ton téléphone comme un imbécile pour reconnaître le truc.
On pourra bientôt miner des bitcoins avec son téléphone aussi.
Aussi, mais bien, plus important, tu pourras donc, tu vois, le truc genre, mais je le connais cet acteur, tu vois. Alors ça, c'est la phrase. Alors moi qui ai une mémoire de poisson rouge sur ce genre de truc, ça va me sauver la vie. Tu pourras montrer ta télé à ton téléphone et puis le truc va te faire, bah oui, c'est bidule, t'es nul ou quoi. Et ça va être pas mal, mais pour ça, ça va être hyper simple d'utilisation. Mais évidemment, vous sur Geekzone, vous savez à quel point techniquement ça commence à devenir un peu chaud à faire. Faut reconnaître le maquillage et tout. T'imagines un peu le truc. Face ID, les gens flippent, mais vous allez voir ce qu'on va faire de bientôt. Ça va pas vous faire rire. Donc, ça, c'est vraiment la guerre entre les gars de chez Apple et les gars de chez Android. Donc, pratiquement tous les téléphones Android sont équipés en Qualcomm ou en dérivé. Mais là, sur les flagships, c'est souvent du Snapdragon. Après, sur les téléphones chinois, tu as des modèles qui sont de chez eux, qui sont généralement moins puissants. les choses évoluent aussi parce que ça évolue très très vite du côté de nos amis chinois. Mais le seul moyen d'avoir un processeur différent et qui est bêtement plus puissant, même si sur le papier c'est pas évident tout le temps, c'est en achetant un iPhone, puisque Apple fait ses propres processeurs avec ses propres devs, donc ils n'ont rien à voir. En revanche, chez LG et compagnie, on a ce truc là. Mais après, bah, si on rentre dans les détails, il y a des modèles différents. Même chez LG, si tu achètes deux S8 en fonction de là où tu l'as acheté, t'as pas forcément le même processeur à l'intérieur.
D'accord.
Donc c'est un peu compliqué.
C'est simple tout ça. Snapdragon 845. Donc on voilà. filera les liens pour aller lire toutes les infos.
C'est le truc que vous allez chercher en 2018 pour acheter votre téléphone trop cher.
Voilà. TLDR. Et on va terminer cette section de news avec Proton Mail qui s'ouvre à l'extérieur.
Ouais, exactement. Proton Mail, c'est le service web historiquement ultra sécurisé avec un chiffrage de tous vos petits mails end-to-end. Donc personne peut lire votre email à part la personne qui le reçoit et vous quand vous l'écrivez. Encore heureux. Mais bon, c'était super chiant parce qu'il fallait absolument se connecter sur leur site web et tu pouvais bosser que depuis ce truc-là qui n'était pas, comment dirais-je, un monstre d'ergonomie, une perfect. Non, c'était juste chiant en fait. Moi, je détestais leurs clients mail, hein, je suis désolé. Ils ont fait beaucoup de progrès, la version 3 commence à être vraiment pas mal, mais ils savaient très bien que ce que voulaient vraiment les gens, c'était de pouvoir bosser dans leurs clients mail classiques. Mm. C'est enfin possible avec un truc qui s'appelle le Bridge Proton Mail, qui se branche avec Apple Mail, Outlook, Thunderbird. Donc pour le moment, c'est que ces trois-là. Et qui va permettre de garder toutes les fonctionnalités de sécurité et de sécurisation des mails que ProtonMail offre, mais en bossant dans des conditions un peu plus confortables. Voilà.
Bon, c'est plutôt cool donc.
Exactement, ça s'installe hyper facilement, allez voir sur le site, tout est expliqué là-bas.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Et c'est l'heure du rant, et cette semaine, on s'attaque à Amazon. Allez.
Amazon, avec vraiment un truc spécifique chez Amazon, qui est donc énorme, hein, vous savez, Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, vous savez que c'est le concurrent de Netflix. Alors, ils ont quelques bonnes séries, et on a envie de les regarder, parce qu'ils ont des trucs vraiment sympas, allez-y. Mais on a un problème avec ce service, c'est la qualité des applications. Et là, ils viennent de sortir enfin la version Apple TV. Et j'ai envie de te dire, je l'installe, j'essaye le truc, et j'ai cru qu'ils se moquaient de nous, en fait. J'ai cru qu'ils se sont foutus de notre gueule, parce que ça fait hyper longtemps qu'on attend la version Apple TV. Il faut savoir qu'il y a une guerre qui se passe en coulisses énorme entre Apple, Amazon, Netflix et Google pour savoir où va la thune, en fait, hein, quand vous regardez un truc. Et là, par exemple, il y a plein de devices qui viennent de perdre l'application puisque en coulisses, des mecs avec des costards-cravates ne sont pas d'accord entre eux, tu vois, donc ça, c'est un peu compliqué. Mais Apple a réussi à récupérer le truc, tu te dis, bravo les mecs, c'est génial. Et là, les mecs te sortent une application, on dirait une app web, en fait. On a l'impression que c'est un wrapper, c'est pas du tout le look and feel d'une application Apple TV classique. C'est dégueulasse, j'ai pas d'autres mots. T'as pas de son quand tu vas d'un menu à l'autre, alors que toutes les autres apps du genre ont ça. La seule app qui est aussi pourrie, c'est un truc de chez Red Bull, je crois, pour mater les compètes de chez Red Bull, donc autant dire que c'est pas très grave si t'y vas pas, enfin, tu vois. Et là, c'est vraiment, mais par rapport même au truc Netflix, qui est déjà pas vraiment respectueux des guidelines des applications Apple, mais bon, c'est Netflix, donc ils ont eu un passe-droit, mais je pense que c'est ce qui s'est passé aussi pour Amazon. On a attendu peut-être aussi longtemps pour avoir un passe-droit de la part d'Apple, parce que les mecs voulaient pas redévelopper un truc. Mais le résultat est dégueulasse. Et alors, comble du comble, tu peux mater des trucs en 4K, HD de la mort et tout, mais en stéréo.
Oh non.
Parce qu'en fait, ça gère pas le 5.1.
En 2017, sérieux.
En 2017, il te sort un truc. Attends, ça fait du 2.1. T'as les basses, ça paraît. Ouh, génial.
Mais c'est pas possible.
Et non, mais je te jure, l'application, elle est tellement pourrie qu'elle est du niveau vaguement de ce que j'ai sur ma LG, sur ma télé LG, sur ma smart télé en WebOS 3.0, tu vois.
Mais c'est quoi? Ils ont pas envie d'y aller? Ils ont pas envie d'y mettre les thunes?
Et je sais pas, mais en fait, j'ai envie de te dire que le département software d'Amazon est vraiment, c'est peut-être même plus l'objet du coup de gueule que juste cette app-là. Mais les softs chez Amazon, quand tu sors du service, c'est une catastrophe. Mmh. C'est vraiment de la merde en bas. Regardez les applications pour le cloud qu'ils ont sur iOS, par exemple.
Non, c'est mais même leur écosystème pour tablette est catastrophique. Ouais, quoi, ils ont...
C'est moche. C'est moche. Tu te dis, mais putain, vous voulez pas qu'on utilise vos produits, les mecs, en vrai? Donc là, c'est une catastrophe, ça continue et j'espère que l'application va évoluer. Bon, en tout cas, déjà, pour avoir le 5.1, ça serait gentil, merci. Mais en attendant, t'as une appli qui est un peu moins pourrie, mais sur Android TV. Donc si vous avez une Shield Nvidia par exemple, bah, je vous conseille de rester là-dessus pour l'instant si vous utilisez ce service. Mais bon, déjà l'application sur Shield, elle est pas magique. On est loin d'un truc qui exploite la performance, les performances de la boîte. Donc voilà, je ne sais pas ce qu'ils foutent. C'est sorti, l'information elle est là. Maintenant, est-ce que c'est bien ? Non. Du coup, bah, c'est pas ça qui fera migrer les gens de chez Netflix. C'est con parce qu'ils ont vraiment quelques séries qui sont pas mal. Et en plus, tu as accès avec ton abonnement premium Amazon Classic. Ouais. Donc, il y a plein de gens qui ont ce truc-là qui savent même pas qu'ils ont accès à ce service vidéo. C'est un petit peu dommage de leur offrir un truc aussi pourri, quoi.
Voilà, ce coup de gueule étant passé, on va terminer ici ce 29e épisode de Torréfaction. Je voulais faire un petit coucou à Luxbox, qui s'occupe d'organiser notre Secret Santa cette année.
Merci Luxbox.
Tradition qui existe depuis quelques années sur Geekzone et qu'elle a décidé de reprendre en main cette année. Donc si vous voulez participer, allez vous inscrire, c'est sur le forum, on linkera le thread dans la news qui va bien. Et puis bah, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. Et d'ici là, bon week-end et matez des bonnes séries, pas sur Amazon Prime. Donc.
Mais peut-être sur Amazon Prime, mais vous allez souffrir.
Allez, ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
You're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.